bienvenue et merci d'être à l'écoute de Radio Shalom Bourgogne. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir, d'être avec Monique. Bonjour.
Bonjour Élie, moi c'est un grand plaisir de te retrouver à chaque fois.
Ah bah oui, en plus, tu vois, à chaque fois que tu viens, le ciel bleu pointe le bout de son nez.
Alors voilà, ça va nous réchauffer le cœur.
Exactement.
Tout simplement.
Alors comme d'habitude, tu es venu dans ton sac à dos avec plein de bonnes nouvelles qui nous viennent d'Israël. Et on va démarrer avec une sélection d'informations qui concernent l'archéologie. Et tu vas nous parler de pièces d'or. Un trésor d'une centaine de pièces d'or a été découvert.
Eh oui, cette semaine, un trésor d'une centaine de pièces d'or datant d'environ 1500 ans a été découvert à Susita, région de Galilée, dans le nord du pays. 97 pièces d'or et de beaux bijoux de l'époque byzantine ont été découverts lors de fouilles archéologiques dans ce parc national près du lac de Tibéria. Moi, j'étais à côté du lac de Tibéria, mais moi, je n'ai pas trouvé de trésor la dernière fois. Hein.
Dommage.
Parmi les pièces figure une pièce rare frappée à Chypre en 610 et dont on n'a retrouvé que deux exemplaires à ce jour. Pour les chercheurs, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur l'histoire politique, économique et religieuse de la région. Le docteur Michael Inzenberg, co-directeur des fouilles, a déclaré « Il s'agit de l'un des principaux trésors de l'époque byzantine découverts sur terre en Israël. Sa particularité réside dans la combinaison de bijoux et de pièces d'or datant de différentes époques impériales. De plus, des vestiges de tissus ont également été retrouvés sur certaines pièces, vestiges du sac en tissu dans lequel le trésor était enterré. »
Eh bien voilà une belle découverte qui va aller au chaud donc dans un musée. Une ancienne synagogue, alors je ne sais pas, c'est mystérieux pour moi.
C'est une ancienne synagogue.
Découverte.
Ah ben, découverte, voilà. Une ancienne synagogue datant d'il y a 1500 ans a été découverte dans le Golan, au nord d'Israël. Le docteur Michael Asban, l'un des directeurs des fouilles, a déclaré « Au début des fouilles, nous avons identifié une concentration inhabituelle d'objets et de fragments de colonnes et plus tard, le mur sud du bâtiment a également été exposé avec trois ouvertures donnant sur Jérusalem, une caractéristique distincte des synagogues antiques. Il s'agit d'une découverte passionnante qui jette un nouvel éclairage sur la vie de la communauté juive du plateau du Golan il y a environ 1500 ans. Selon les chercheurs, la structure mise au jour était de style basilical, une large structure rectangulaire avec deux rangées de colonnes et des bancs le long des murs. Le mur sud exposé mesure environ 13 mètres de long. On y a découvert des linteaux décorés et des objets attribués à l'Arche Sainte. Le docteur Drov Ben Hussein, archéologue de l'autorité israélienne de la nature et des parcs, a ajouté « La découverte de l'ancienne synagogue de Yerushalayim témoigne de l'épanouissement d'une communauté juive dynamique sur les hauteurs du Golan il y a environ 1500 ans. Outre cette synagogue, on recense environ 25 autres synagogues anciennes sur le plateau du Golan qui servaient non seulement de lieu de prière, mais aussi de centre d'apprentissage et de culture. Nous avons l'intention de poursuivre les fouilles et de rendre le site accessible au grand public. Bientôt, quand on ira en Israël, on pourra aller dans le plateau du Golan et puis voir ces anciennes synagogues.
Voilà, on imagine un trajet un peu touristique pour retracer l'histoire de ces différentes communautés qui devaient vivre
1500 ans.
Et travailler ici.
Ouais.
1500 ans. Une découverte, cette fois-ci, Monique, exceptionnelle à Jérusalem, mais laquelle ?
Alors, c'est une actualité archéologique en ce moment, depuis là, les deux dernières nouvelles, on trouve beaucoup de choses. Hein. Une découverte exceptionnelle à Jérusalem révèle les liens historiques avec l'Empire assyrien. Un fragment d'argile vieux de près de 2700 ans a été mis au jour près du mur occidental dans le parc archéologique de la cité de David. Ce minuscule morceau de poterie, portant une inscription cunéiforme en acadien, constitue la première preuve écrite de ce type jamais découvert à Jérusalem. Ce fragment daterait de la période du premier temple, 8e, 7e siècle avant notre ère. Mmh. Il relève l'existence d'un canal de communication officiel entre le royaume de Judée et l'empire assyrien, alors puissante dominante du Proche-Orient. Les chercheurs expliquent que l'inscription évoque un retard de paiement d'impôts. Oh, on en parle des impôts, il y a pas.
Alors là, c'est pas nouveau, hein, finalement.
C'est pas nouveau.
Non.
Un retard d'impôts et mentionne un haut fonctionnaire désigné comme celui qui tient les rênes, chargé de transmettre les messages officiels. Ça me fait rire, les impôts. Ben, oui. Je devrais pas rire.
Mais ben, oui, non, mais c'est sûr, pas nouveau.
Voilà, il y a, tu vois, 2700 ans, ça existait déjà. D'après le docteur Ayaya Siberten, directrice de la fouille, il s'agit d'une preuve directe de correspondance diplomatique entre Jérusalem et l'Empire assyrien. Les analystes ont montré que l'argile ne provenait pas de Jérusalem, mais du bassin du Tigre, confirmant des échanges matériels entre les deux royaumes. Cette pièce a probablement voyagé jusqu'à Jérusalem dans le cadre d'un contact politique ou commercial. Pour les archéologues, cette nouvelle trouvaille éclaire d'un jour nouveau les relations politiques, administratives et culturelles entre le royaume de Juda et les grandes puissances de son temps. Elle témoigne aussi du niveau d'organisation et d'influence de Jérusalem à l'époque du Temple, au cœur de l'histoire biblique.
Voilà pour ces trois belles découvertes archéologiques. Et comme d'habitude, Monique, tu vas revêtir ta blouse d'infirmière, médecin, chercheuse, je ne sais pas, pour nous parler justement de quelques découvertes. On va démarrer par un test. Et oui. Ce test s'appelle Galerie.
Ben oui, c'est le test Galerie. A permis de multiplier par plus de 7 le taux de détection du cancer. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Un simple prélèvement de sang pourrait, demain, changer la donne du dépistage du cancer. Le test Galerie, développé par la société pharmaceutique américaine Gleil, prétend repérer plus de 50 types de cancers, améliorant considérablement le dépistage précoce. Les résultats ont été présentés dernièrement, puisque c'était le 18 octobre, lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale qui s'est tenu à Berlin. Nouvelle pépite de l'entreprise de biotechnique californienne, le test Galerie détecte dans le sang des fragments d'ADN pouvant indiquer la présence d'une tumeur cancéreuse. Il repose sur une technologie de médiation ciblée qui identifie l'ADN cancéreuse grâce au séquençage nouvelle génération et à l'apprentissage automatique. Parmi les cancers détectables par le test Galerie, certains ne font aujourd'hui l'objet d'aucun dépistage systématique. Mmh. En plus de repérer le signal cancéreux, le processus de détection serait aussi capable de renseigner l'origine de la tumeur et d'estimer le stade de la maladie, comme le rapporte le magazine américain Company. Pour obtenir ces résultats, une étude baptisée Pathfinder 2 a été menée sur près de 35 900 personnes âgées de 50 ans et plus, sans symptômes apparents. Le test a identifié environ 40% des cas de cancer parmi les participants suivis depuis plus d'un an. Selon MedCap, premier site d'information pour les médecins et professionnels de santé, sur 329 participants finalement diagnostiqués, 200 cancers ont été détectés par dépistage, 133 par le test Galerie et 67 grâce à d'autres méthodes. un taux de détection multiplié par 7. Autrement dit, le test développé par l'entreprise américaine a permis d'identifier plus d'un tiers de cancers, donc 75%, échappent habituellement au dépistage classique. Combiné au test existant pour les cancers du sein, du col du fémur, du côlon, du poumon et de la prostate, le test Galeri a permis de multiplier par plus de 7 le taux de détection du cancer, précise John Hoffman, président de Grail, dans un communiqué de presse. Le test serait aussi capable de repérer des tumeurs notoirement silencieuses comme celle de l'ovaire et du pancréas.
Mais voilà des belles pistes pour le futur, on l'espère, qui seront de plus en plus précises. Une prouesse cette fois-ci chirurgicale inédite en Israël qui a étonné le monde scientifique.
Oui, c'est les équipes de l'hôpital Hadassa Ein Kerem de Jérusalem ont réalisé pendant la fête de Sukkot, donc c'est quand même très récent, une prouesse chirurgicale inédite en Israël. Un patient a subi un pontage cardiaque complexe immédiatement suivi, la nuit même, d'une transplantation hépatique vitale. Cette opération exceptionnelle, pratiquée uniquement dans quelques grands centres hospitaliers à travers le monde, a nécessité une planification minutieuse et la mobilisation de plusieurs équipes médicales. Elle s'inscrivait dans un marathon de transplantation de 24 heures qui a permis de sauver 4 vies, 2 greffes de foie et 2 greffes de rein. Le patient n'aurait pas survécu à la transplantation hépatique sans le pontage et inversement, il n'aurait pas survécu sans la greffe, explique le docteur Abel Kalael, directeur de l'unité de transplantation d'organes solides de Hadassa. Sa vie a été sauvée en une nuit dans 2 blocs opératoires différents. Le patient, il s'appelle Kikan, 44 ans, père de 4 enfants, originaire d'Ophra en Judée-Samarie, souffrait d'une cirrhose hépatique sévère. « Je n'aurais jamais imaginé que mon état atteindrait un tel stade », confie-t-il. « Lorsqu'on m'a annoncé que j'avais besoin d'une greffe, j'ai eu très peur. Ce n'était pas simple. Selon sa femme, Shoshana, son état s'était considérablement aggravé il y a environ un an. On nous a annoncé qu'il avait besoin d'une transplantation hépatique, se souvient-elle. Lors d'examens de routine avant la transplantation, les médecins ont découvert que Gigab souffrait également d'une obstruction sévère des artères coronaires nécessitant un pontage cardiaque urgent. Schlund souffrait d'un restrécissement des artères qui irrigue le cœur, une pathologie potentiellement mortelle qui a rendu impossible une transplantation hépatique préalable, détaillé par le docteur Amit Korad, directeur du service de chirurgie cardio-thoracique. Le risque de pratiquer les 2 interventions consécutivement est immense, surtout chez un patient souffrant d'insuffisance hépatique sévère et d'une altération de la coagulation sanguine. Pendant que l'équipe du docteur Korach réalisait le pontage coronarien, une autre équipe effectuait simultanément un prélèvement hépatique à l'hôpital Rambam. Une fois le pontage terminé, à 14h du matin, le foie a été transporté à Hadassa où la transplantation a été immédiatement débutée et avec succès. Nous avons passé des mois à préparer chaque détail, à répertorier les complications potentielles et le matériel nécessaire, raconte le docteur Corral. La principale source de tension résidait dans l'inconnu. Ce type de chirurgie combinée n'a été tenté très peu de fois dans le monde.
Eh bien, on espère que cet homme poursuivra sa vie dans les meilleures conditions. Mais
c'est quand même une sacrée prouesse, quand même. Il ne faut pas l'oublier qu'Israël, quand même,
belle prouesse.
Il est au top du top.
Bah, disons que oui, et on espère que la recherche continuera dans ce sens-là pour des choses positives.
Ah.
On est toujours dans la recherche. Alors, on quitte le monde des hôpitaux, Monique. Alors cette fois-ci, c'est une grande interrogation pour moi. Tu vas nous parler de lait. Oui, mais du lait sans vache. Non, pas du lait sans vache.
Mais oh non, là là. Oh bah tu...
Mais non, non mais je devance le... Oh bah je suis en train de devancer les actualités. Non, c'est une colle. Alors en fait, on reste dans les laboratoires.
Oh, bah oui.
On va parler de colle biologique, mais à quoi, pourquoi? Est-ce que c'est pour les opérations?
Une colle biologique intelligente remplace les sutures et les agrafes. C'est quand même... Au niveau des opérations, si tu n'as plus d'agrafes, c'est quand même mieux quand même. Hein.
Effectivement.
Voilà. Une innovation majeure. Inspiré par la nature, pourrait bientôt reléguer les méthodes chirurgicales traditionnelles comme les sutures et les agrafes au passé. Des chercheurs du Technion à Haïfa ont mis au point une colle biologique intelligente capable d'arrêter les saignements, de prévenir les infections et de refermer les plaies en quelques secondes. Ce développement breveté dirigé par le docteur Sadi Farah du laboratoire des polymères fonctionnels médicaux avancés pourrait transformer les procédures chirurgicales dans le monde entier, offrant une solution moins invasive, moins douloureuse et plus sûre pour les patients. L'idée de cette nouvelle colle est née d'une observation simple. Alors là, tu vois, moi j'ai trouvé ça super. C'est-à-dire, on a observé comment les mollusques, les escargots, les palourdes parviennent-ils à s'accrocher fermement aux surfaces, même lorsqu'elles sont mouillées. Notre recherche a appris de la chimie de la nature en imitant la capacité des mollusques à adhérer aux surfaces humides via des groupes chimiques spécifiques, explique le docteur Farad. Contrairement aux cols biologiques existants qui peinent à adhérer en présence de liquide, ce nouveau hydrogène à base de polymères naturels, dérivé notamment de l'acide tannique, est conçu pour créer des liaisons stables même en milieu humide ou sanguin. La rapidité et la polyvalence sont les atouts majeurs de cette invention. Action en quelques secondes, le matériau qui peut être imprimé en 3D et présente une mémoire de forme se transforme en hydrogel en seulement 5 à 10 secondes après une exposition à la lumière ultraviolette. Cette fonctionnalité permet aux chirurgiens de l'appliquer facilement via des procédures moins invasives. Bouclier anti-infection. En plus d'agir comme un scellant chirurgical immédiat pour stopper les hémorragies, la colle s'est révélée très active antibactériellement. Elle désintègre la paroi des germes, prévenant ainsi les infections pathogènes, une complication grave qui touche près de 11% des patients après une chirurgie. Biodégradable et esthétique, le matériau est totalement biocompatible et se décompose naturellement en éléments inoffensifs pour le corps. De plus, en réduisant le traumatisme de la plaie, il offre un avantage esthétique significatif en minimisant les cicatrices.
Alors, professeur Thiébaud, vous allez enlever votre blouse de scientifique pour enfiler une blouse de chercheuse, de travailleuse extérieure, on ne sait pas. Sur quoi travaillent justement les scientifiques israéliens?
Sur quoi travaillent les scientifiques israéliens en pleine guerre, même si actuellement les armes sont un peu posées des deux côtés? Voilà ce qu'ils ont travaillé en pleine guerre. Les Israéliens ne construisent pas d'îles en forme de palmiers, de gratte-ciel imposants, ni d'hôtels de luxe, et leurs dirigeants ne conduisent pas de voitures aux carrosseries argentées massives. La fierté d'Israël réside dans le fait que ces technologies peuvent être utilisées par toute l'humanité. L'université de Tel Aviv développe un vaccin nasal qui protégera contre la maladie d'Alzheimer et des accidents vasculaires cérébraux. Le Technion à Haïfa a mis au point un test sanguin simple permettant de détecter différents types de cancers. Le centre Ishlov à Tel Aviv a isolé une protéine qui rend la coloscopie inutile pour détecter le cancer du côlon, grâce à un simple texte sanguin. Le cancer du côlon tue environ 500 000 personnes chaque année. L'acné ne tue pas, mais elle est source d'anxiété chez les adolescents. Le laboratoire Carlit a mis au point un remède. Un rayonnement UV de haute intensité tue les bactéries responsables de l'acné. C'est bien pour les jeunes quand même. Hein.
Oui, c'est, on a, parfois quand on est dans un âge un peu compliqué,
ouais. Ben,
les
oui,
hormones
moi, je me
peuvent chambouler la vie, c'est vrai.
Tout à fait. Le laboratoire d'imagerie Jiven a développé une minuscule caméra en forme de pilule avalée qui transmet des milliers d'images du tube digestif. Ces images de haute qualité, 2 par seconde pendant 8 heures, permettent d'identifier les polypes, les cancers et les sources de saignement. Les images sont transmises à une puce qui les stocke et les transmet à un ordinateur. À la fin du processus, la chambre est retirée par l'anus. L'Université hébraïque de Jérusalem a développé un neurostimulateur électrique implanté dans la poitrine des patients atteints de la maladie de Parkinson, semblable à un stimulateur cardiaque. Les émissions de cet appareil bloquent les signaux nerveux responsables des tremblements. Alors, il y a autre chose aussi. La simple odeur de l'haleine d'un patient peut détecter un cancer du poumon. Le Rezel Berry Institut Nanotechnologie a créé des capteurs capables de détecter et d'enregistrer 42 biomarqueurs indiquant la présence d'un cancer du poumon sans nécessité de biopsie. C'est quand même extraordinaire quand même. Hein? Alors, il y a une autre invention. Le cathétérisme peut être supprimé dans de nombreux cas. L'endopathe est un appareil placé entre l'index qui permet de mesurer l'état des artères et de prédire le risque de crise cardiaque dans les sept prochaines années. Maintenant, c'est l'université Bar-Ilan étudie un nouveau médicament qui combat les virus par voie sanguine. On le surnomme piège et charlatan car il provoque l'autodestruction du virus. Très utile pour lutter contre l'hépatite et plus tard contre le sida et Ebola. Maintenant, c'est des scientifiques israéliens du centre médical Hadassah à Jérusalem pourraient avoir découvert le premier remède contre la sclérose latérale amyotrophique connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig chez un rabbin orthodoxe, Stephen Arkin. Célèbre scientifique britannique souffrait de cette maladie et utilisait des méthodes inventées par des scientifiques israéliens pour communiquer. Donc maintenant, le monde ne devrait pas vivre uniquement de mauvaises nouvelles. Alors, nous diffusons ici à Radio Shalom des bonnes nouvelles d'Israël.
Merci Monique, et pour conclure, encore une bonne nouvelle.
Voyage,
tu vas nous
voyage,
parler voyage, c'est voyage. Ça. Alors on a eu là deux la même idée.
On a eu tout en même temps. Et voilà, ces Français qui adorent visiter Israël. Voyage en Israël, le jour se lève. Pour le touriste vers Israël s'ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre. Les premiers signes de reprise déjà perceptibles depuis le printemps 2025 vont désormais pouvoir s'accélérer. Alors ça, c'est une nouvelle que j'ai reçue le 24 octobre. Là, hein. Les premiers signes de reprise déjà perceptibles depuis le printemps 2025 vont désormais pouvoir s'accélérer. Les hôtels, les sites historiques et les professionnels du tourisme se préparent à accueillir à nouveau les voyageurs du monde entier, dont de très nombreux Français. De Jérusalem à Tel Aviv, de la Galilée aux rives de la mer Morte, du désert de Judée à Eilat, la mer Rouge. Le pays retrouve son âme de terre d'accueil et de rencontre, d'échange et de partage. Le tourisme n'est pas qu'une industrie, c'est un pont entre le peuple et un dialogue vivant. L'Office israélien de tourisme réaffirme sa conviction profonde que le voyage demeure l'un des plus beaux vecteurs de paix et d'humanité. avec 26 400 touristes français en août 2025, en hausse de 9% par rapport à août 2023, la France se distingue nettement de ses voisins et reste le premier marché européen. Sur la période janvier-août, 113 300 Français ont voyagé vers Israël, un volume qui place la France au deuxième rang mondial derrière les États-Unis, 275 200 arrivés, et devant le Royaume-Uni, 66 200 arrivés. En août 2025, Israël a accueilli 118 200 touristes internationaux contre 68 800 en août 2024, soit une progression de 72%. Depuis le début de l'année, 814 000 entrées touristiques ont été enregistrées contre 672 400 sur la même période en 2024, ce qui représente une hausse de 21%. Ces résultats confortent la prévision annuelle d'environ 1 300 000 touristes d'ici fin 2025. Concernant les tourismes français, les chiffres cumulés pour la période de janvier à septembre 2025 s'élèvent à 123 700 touristes. Dès le mois d'octobre 2025, nous devrions dépasser le total des arrivées pour l'ensemble de l'année de 2024, atteignant un cumul projeté de 130 700 touristes. Ainsi, sur la base de ces projections, nous espérons terminer l'année 2025 avec un total avoisinant les 170 000 touristes en provenance du marché français. Israël, terre millénaire d'histoire, de spiritualité et d'innovation, s'apprête à écrire un nouveau chapitre. Le jour d'après n'est plus une attente, il est là et avec lui renaît l'espoir d'un avenir de paix.
Ben justement, j'allais terminer comme ça, Monique aussi. Merci pour ta bonne humeur et tes bonnes nouvelles. Et on souhaite évidemment la paix entre toutes et tous.
Exactement.
Même si c'est parfois vain, faut le dire quand même.
Parfois difficile, mais on y arrivera. Faut croire.
On l'espère. À très bientôt, Monique.
Merci.
Et merci beaucoup.
Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des cartes Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage.